Pas un bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Et oui, chers auditeurs, c'est le moment de mondes imaginaires. Vous vous agrippez un stylo et le moindre bout de papier qui vous passe sous la main pour noter quels sont nos références en termes d'orphelinat.
Et si, pour une fois, on n'était pas orphelin par... Ou plutôt, si on devenait orphelin par choix, qui, en étant ado, on n'a pas eu marre de ses parents?
Donc, au lieu d'échanger les parents, tu proposes de les zigouiller?
Non, je propose de partir dans une dimension parallèle où ils ne sont plus là.
C'est pas mal, ça.
Ah, c'est
ça
pas
fait
mal.
Un peu penser à Coraline.
Ah, un petit peu, effectivement.
De Neil Gaiman.
Donc, c'est ce que nous propose Claire Gratias avec Orphans, qui est une trilogie qui est sortie en 2013, où un ado a dit sur un coup de tête à ses parents que, pour finir, il en avait marre, qu'il voulait être orphelin. Et il reçoit un message, un SMS, qui lui dit « Il y a des jours où tu rêverais d'être orphelin. Tu ne supportes plus que tes parents ne te fassent pas confiance. Tu n'es pas seul. » Rejoins-nous sur www.orphanproject.com. Et lorsqu'il y va, il y a une série d'étapes qu'il doit franchir en plein dans la ville de La Rochelle, donc c'est du français, ça change un petit peu, je dois dire. Et il se retrouve un petit peu par hasard dans une dimension parallèle où ses parents en fait sont morts. Donc ce livre, il est assez intéressant, c'est du young adult aussi. Pourtant, moi, je ne suis pas fan du young adult.
Mais
Cependant, je tiens à dire que c'est peut-être écrit comme du young adult, mais le scénario n'est pas si facile d'accès. On met du temps à trouver exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, quel est le sombre projet qu'il y a derrière. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ça mélange de la technologie actuelle. On parle de smartphone, on parle de SMS, de WhatsApp, de site web. On parle aussi de technologie avancée dans la dimension parallèle. Et c'est vraiment des petits indices qui sont disséminés à droite, à gauche pour essayer de reformer un tout. Donc j'ai trouvé le scénario pas facile d'accès pour des 13, 14, 15 ans, mais plus pour du young adulte dans le sens jeune adulte et non pas ado. En tout cas, je vous le conseille. Voilà. C'est une belle découverte.
Dans ce monde imaginaire dédié aux enfants orphelins avec pouvoirs spéciaux, on ne pouvait pas ne pas vous parler de l'enfant orphelin par excellence, Peter Pan. Personnage de J.M. Barrie, qui apparaît dans son premier roman qui s'appelle Le Petit Oiseau Bleu en 1902. Ouais, Peter Pan, c'est pas du tout jeune. Puis dans la pièce du même nom, Peter Pan a une vie bibliographique assez fournie. Juste rien qu'avec son auteur Barry, mais je ne vais pas le développer plus parce que ce serait beaucoup plus sympa pour vous de regarder le biopic romancé qui parle de cette création de Peter Pan. C'est le très beau Finding Neverland de Mark Forster. En tout cas, moi, j'ai adoré. En revanche, dans mon imaginaire, comme on doit vous dire quoi lire, quoi voir, quoi écouter, voici ma sélection. Alors, j'ai déjà mentionné Finding Neverland, mais il y a aussi Hook en film, avec Robin Williams, magnifiquement dirigé par Steven Spielberg, qui joue un Peter Pan adulte, perdu dans l'adultisme et qui a perdu, par conséquent, sa fantaisie et sa capacité à rêver. On le retrouve projeté dans le pays imaginaire par Crochet qui a enlevé ses deux enfants. Oui, Peter Pan est avocat, marié à la petite fille de Wendy et a deux enfants. Bon, pour moi, même si le début fait un peu tirer par les cheveux, c'est un très joli film, drôle, avec des acteurs de talent, Robin Williams, Dustin Hoffman ou Julia Roberts, et qui donne presque envie de souffrir du syndrome de Peter Pan. Sinon, il y a aussi le très 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 bon Peter Pan de Disney, qui date de 1953, donc encore plus vieux que Peter et Elliot le dragon, qui est joli, sans fioritures, avec des personnages hauts en couleur, genre Nini la tigresse et son père, le chef indien, avec des chouettes chansons plutôt inoubliables.
À la file indienne, indienne, indienne. Nous sommes la file indienne. Nous marchons en chantant. Tidam, tidi, atiriru, tidé. Tidam, tidi, c'est facile à prononcer. Tidam, tidi, c'est la chanson qui nous plaît. Chantons tidi, tidi, tidi.
Et ces chansons ont tellement marqué notre enfance que Jess et Johanna sont en train de se trémousser autour de la table.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Y a aussi une très très belle bande dessinée sur Peter Pan, qui est sobrement appelée Peter Pan, qui est 6 tomes signés Régis Loisel. Ça raconte la première arrivée, plutôt sombre et plutôt adulte, je préviens, de Peter Pan aux pays imaginaires. Enfin, et je contredis à ce moment de la chronique la règle de la prise de notes, je vous dis de ne pas noter ce qui va suivre, puisque c'est ce qu'il ne faut absolument pas envisager. Tout ce qui concerne la fée Clochette, c'est gnangnan, c'est vert jaune et c'est chiant. Le deuxième film de Disney, Retour aux pays imaginaires, il ne faut absolument pas le voir non plus. Ou l'épisode de Once Upon a Time où Peter Pan est le roi d'un pays imaginaire qui est un lieu glauque et effrayant. Bien sûr, pays imaginaire, tout va bien. Et on apprend que, logique, il est le père de Rumpelstiltskin. Bref, cette série, c'est de plus en plus n'importe quoi. Ah, je crois que j'ai spoilé quelqu'un. Ah non, ça va.
Non, non, je suis sidérée devant l'aberration, pardon.
Ah non, mais il n'y a pas de souci, bienvenue dans Once Upon a Time. Bref, si vous tenez à garder la magie de Peter Pan, cette capacité à rêver, à voir le monde avec des yeux d'enfant, Mondes Imaginaires vous recommande les basiques. La pièce Le Petit Oiseau Bleu existe en audio, Hook avec Robin Williams, Finding Neverland de Mark Forster, ou Peter Pan chez Disney. Et c'est tout.
Écoute à présent, laisse-moi te confier l'histoire de la marée montante du scepticisme. La dévastation règne sur le monde judéo-chrétien. Le buisson ardent de Moïse ne s'embrasse plus. Le Christ au tombeau redoute de sortir, de crainte de ne pas être reconnu par des Thomas incrédules. L'ombre d'Allah fond à midi. Par voie de conséquence, chrétiens et musulmans affrontent un monde déchiré par maintes guerres pour en concrétiser une plus grande encore. Moïse n'est pas descendu de la montagne, car il ne l'a jamais gravi. Le Christ n'est pas mort, car il n'est jamais né.
Amen. Bienvenue sur Mondes Imaginaires, l'émission qui vous décoiffe en parlant de religion. Johanna a l'air complètement désespérée par cette lecture.
Pourquoi? Ça sort d'où?
Alors, ça sort de Ray Bradbury, qui pour une fois ne fait pas de la SF en tant que telle, mais qui nous parle via 6 nouvelles de ce qu'ont pu ressentir les créatures surnaturelles avec la montée du scepticisme et la montée de la science. Via ces 6 nouvelles, effectivement, il nous raconte l'histoire d'une famille plutôt recomposée ou composée de créatures surnaturelles qui se rejoignent normalement toutes les années à Halloween et qui, au fur et à mesure des années, doivent partir parce qu'il ne fait plus bon vivre dans leur pays, car plus personne ne croit en eux, plus personne n'est superstitieux et plus personne ne croit en le folklore.
C'est une espèce de Hôtel Transylvania, mais en version bouquin.
Et en version plus ancienne aussi.
C'est exactement ce que j'allais dire. Incroyable.
C'est une version plus ancienne, un peu de l'école... comment ça s'appelle ?
Hôtel Transylvania.
Bah voilà, c'est un petit peu ça. Et j'ai trouvé assez intéressant, bien que pas facile d'accès, car les nouvelles parlent des mêmes personnages, mais sont décousues les unes aux autres. Cependant, il y a une montée en puissance, il y a pas mal d'humour, et ça nous fait un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'il advient de ces créatures surnaturelles. Peut-être qu'elles existent vraiment, peut-être qu'en fait, elles commencent à ne plus exister. Et heureusement que Monde Imaginaire et vous, chers lecteurs, vous êtes encore là pour croire en elles et continuer à les faire persister. C'est un livre qui mélange beaucoup de romance et d'humour et de poésie. C'est très poétique. C'est un petit peu bizarre quand on s'y attend pas, surtout que le quatrième de couverture ne nous prévient pas de ce format-là. Mais une fois qu'on le sait, c'est vraiment très agréable à lire. Je vous le recommande aussi.
Et par rapport à du Ray Bradbury qu'on a pu lire en SF, comme par exemple Chronique martienne, qui a dégoûté pas mal de gens de la SF à ma connaissance, est-ce que c'est chouette ?
De nouveau, si on ne s'attend pas à une histoire avec un fil rouge qui tient vraiment la route, oui, c'est vraiment chouette.
Les étoiles de Dune et son messie, des piles de manuscrits sortis d'une autre galaxie deviendront mon remède contre la mélancolie. Comme je me retrouve dans le recueil des bannis, le maître du haut château et son pamphlet dérangeant. Comme une traînée de poudre, le mythe se répand. Il traverse le temps et parfois se brûle les ailes, victime de veto, mais les auteurs sont immortels, s'arrêtant sur le seuil de l'éternité avant d'atteindre le chaos et sa finalité. Des noms, des citations te reviendront en tête. Nous les suivrons au bout de leur quête. D'une planète à une autre, le schéma des sociétés sera calqué sur la Terre et son nombre d'opprimés. Le sang bleu veineux des cercles du pouvoir et les ravages provoqués quand l'homme se prend pour Dieu. Un hommage pour d'intemporels héritages, de vrais messages sans le son et l'image. Personnage principal ou simple observateur dans la peau d'un autre durant quelques heures. Avec leur connaissance, apprendre et s'enrichir, c'est alors que le voile de l'innocence se déchire. L'antidote de nos tourments se trouve dans les mots, c'est au détour d'une phrase que se guérissent nos mots.
J'ai le sentiment qu'il suffit parfois de quelques degrés pour passer de l'irréel au réel. Cela me semble si réel en fait.
Poussé à comprendre le vrai mécanisme de ceux qui nous accablent, c'est un euphémisme. Les loups ont profité de l'onde de choc pour que l'on suffoque sous leurs assauts répétés. Il n'y a qu'un pas du silence au vacarme, qu'une balle de la vente à l'usage des armes. Et il paraît que l'on récolte tout ce que l'on sème. Dangereuse vision de nos époques contemporaines. Je nous vois tous piétiner le même chemin. Des animaux grégaires, beaucoup trop manichéens. Leur récit nous représente comme des hommes dans la jungle. C'est là où ça fait mal qu'ils plantent leurs épingles. Un peu d'air frais avant que nous s'annonce la fin. La civilisation, ils en ont prédit le déclin. Nous y trouverons la paix des profondeurs. C'est un point final au règne de la peur. Un hommage pour d'intemporels héritages, de vrais messages sans le son et l'image. Personnage principal ou simple observateur dans la peau d'un autre durant quelques heures. Avec leur connaissance, apprendre et s'enrichir, c'est alors que le voile de l'innocence se déchire. L'antidote de nos tourments se trouve dans les mots, c'est au détour d'une phrase que se guérissent nos mots. De la première à la dernière page de couverture, je suis comme happé par leur sens de l'écriture. Un voyage de l'esprit vers de lointaines contrées. Ils font naître la vie avec de l'encre et du papier, des nouvelles, des pavés qui forcent l'admiration, l'éclat de la flamme de leurs imaginations, des machinations qui paraissent si tangibles, les cas de conscience en deviennent accessibles, voqués jusqu'à l'île du docteur Moreau pour y voir apparaître l'ultime fléau, mais privé de matière grise, le troupeau est aveugle. Du labyrinthe, chacun finira seul. Bienvenue sur l'échiquier géant de la création, porteuse d'holocauste, de guerre de religion et cette chère humanité avec sa loi du talion. Mon chapitre se termine entre la science et la fiction. La science et la fiction. Entre la science et la fiction. Entre la science et la fiction. Entre la science et la fiction. Un hommage pour d'intemporels héritages, de vrais messages sans le son et l'image. Personnage principal ou simple observateur dans la peau d'un autre durant quelques heures. Avec leur connaissance, apprendre et s'enrichir, c'est alors que le voile de l'innocence se déchire. L'antidote de nos tourments se trouve dans les mots. C'est au détour d'une phrase que se guérissent nos maux.
terminer cette prise de notes avec l'histoire d'un petit garçon qui, contrairement à nous, oui, parce que moi, je suis comme Jess, hein, je ne regarde pas forcément les films d'horreur jusqu'au bout, n'a pas peur des fantômes. Il s'appelle Nobody Owens. Et c'est normal qu'il n'ait pas peur des fantômes. Ils sont sa famille. Non, non, lui, c'est un petit garçon bien vivant. Mais il est orphelin. Et il peut voir les morts. En fait, sa famille a été tuée par le plus célèbre tueur en série de Londres quand il a 5 ans. Mais bon, en l'occurrence, le tueur en série, il s'appelle le Jack. Pas très original. Et il se réfugie dans un cimetière et est adopté par un couple de fantômes. Il ne comprend pas vraiment son anormalité. Il voit des fantômes, il vit dans un cimetière. Sauf que le meurtrier de ses parents rôde toujours et qu'un jour ou l'autre, il va falloir sortir du cimetière. La force de cet ouvrage, c'est qu'on rencontre des morts de tous les âges, notamment un certain Caius Pompeius, ça c'est pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, avec chacun ses petites manies à ses fantômes, ils sont drôles, et Nobody Owens, c'est un gamin assez décoiffant. Ah oui, et l'étrange vie de Nobody Owens, même au format poche, est illustrée par Dave McKean, avec qui Neil Gaiman, qui signe l'ouvrage, avait déjà travaillé sur plusieurs projets graphiques, notamment les couvertures de ses Sandman. Petite information croustillante, Dave McKean a aussi fait la pochette d'album de Tori Amos, Alice Cooper, Machine Head et j'en passe. Bref, en cette période d'Halloween, rien ne vaut un roman de fantôme qui ne fait pas peur.
I live in a cemetery. I need a change, not to imitate, but to irritate. I live in a cemetery. I need a change, not to imitate.
Alors cette prise de notes est terminée, il nous manque juste un petit détail histoire d'être vraiment au clair sur les orphelins. Où est l'orphelin dans De la poussière à la chair de Ray Bradbury ?
En fait, l'orphelin c'est celui qui écrit le livre, celui qui écrit les nouvelles, c'est le chroniqueur qui a été retrouvé devant la porte du manoir, abandonné et esselé. Et quand la famille surnaturelle l'a vu, ils ont tout de suite dit « on t'attendait, tu es notre chroniqueur ». Voilà.
Et donc, pour cette prise de notes sur les enfants à pouvoirs spéciaux, vous pourrez lire De la poussière à la chair de Ray Bradbury, L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman, Claire Gratias a signé le roman Orphans et Régis Loisel, une bande dessinée plutôt glauque appelée Peter Pan.